France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Programme et casting olympique ce soir dans les informés. J-100 pour Paris 2024. C'était une journée spéciale sur France Info et on va se demander au final que seront des Jeux réussis, des médailles ou plus que ça. Le gouvernement convaincra-t-il, lui, les Européens avec sa copie rendue ce matin pour enrayer la spirale des déficits? Pas crédible, pas cohérent, dit en tout cas le Haut Conseil des Finances Publiques. On posera la question à Emmanuel Auriol qui est économiste, professeur à la School of Economics. Et puis l'université de Lille, elle, annule le meeting sur la Palestine prévu demain avec Jean-Luc Mélenchon. Les insoumis crient à la censure. La gauche se déchire sur ce conflit israélo-palestinien. On parle de tout ça avec les informés de ce soir qui sont François Reinhardt, chroniqueur au Nouvel Obs, Elsa Fresnay, grand reporter aux Échos, et Stéphane Bernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, avec Philippe Randé de la direction des sports de Radio France pour cette première partie. Bonsoir à tous. Des Jeux réussis, ce serait quoi selon vous? Vous nous direz dans un instant. Question posée ce matin à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était l'invitée du 8h30 France Info à l'occasion de ce J-100.
Il faut, pour qu'on réussisse des grands Jeux, il faut qu'on ait quatre choses. Il faut qu'on ait une organisation qui soit aussi irréprochable que possible. Il faut qu'on ait un engagement de tous les territoires, que les Français, et on y travaille d'arrache-pied, sentent que c'est leur jeu. Et il faut qu'on ait un héritage qui soit bien pensé, bien préparé, à la fois sur le plan de l'accueil sportif au lendemain des Jeux, mais aussi sur toutes les transformations durables, la baignabilité de la Seine et de la Marne, la faculté à transformer le village des athlètes, le village des médias, en des logements sociaux, des écoquartiers, des commerces, des services, etc. Et il y a une quatrième dimension qui est évidemment la réussite de nos athlètes. On est à J-100, il reste 500, 600, 700, 800 boulons à serrer, mais on est tous en équipe dans nos temps de passage et déterminés à livrer au pays les plus grands Jeux de l'histoire.
Voilà, ça fait beaucoup de boulons. Je récapitule. 1, organisation. 2, engagement de tous. 3, héritage. Et 4, évidemment, dit-elle, la réussite sportive. Philippe Randé, allez, on va dire qu'organisation, engagement de tous, ça c'est un peu du team building peut-être. Et on peut se concentrer sur les deux autres.
Ben, on va se concentrer sur le sport. On va espérer pouvoir se concentrer sur le sport.
Qui, alors... pour vous, quand on enlève tout le reste, c'est ça qui fait la réussite pour une nation qui organise les Jeux?
Bah, il faut d'abord que la cérémonie d'ouverture se passe bien, comprenez que ce soit le plan A, et puis si cette cérémonie d'ouverture sur la scène se passe bien, il n'y a pas de raison que le lendemain, à partir de 8h30, ça commencera à 8h30 le samedi matin avec le badminton, il n'y a pas de raison que le lendemain ça se passe pas bien. Et puis évidemment, tous les regards seront braqués sur les médailles françaises, parce que des Jeux olympiques réussis, ce sont des Jeux avec le pays hôte qui gagne des médailles et qui entraîne un enthousiasme dans le pays, ça va de soi.
Alors, avant de rentrer dans le détail, globalement sur les quatre critères cités les uns les autres.
Bah, moi, j'ai envie de positiver, donc on n'a pas d'autre choix que d'être prêt, sinon on se ridiculise. Mais sur l'organisation...
Pas l'impression que vous avez ?
Non, sur l'organisation, il y a encore des points d'interrogation. Bon, on l'a dit sur la qualité de l'eau, ça a été déjà beaucoup dit. Il y a aussi sur les transports, quand même. Si en ce moment vous prenez le métro à Paris, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de lignes arrêtées précisément pour faire les réparations, etc. Et que la 14 n'est pas finie. Or ça va être un point.
Le prolongement doit être inauguré courant mai, hein.
Oui, mais par exemple, alors pour y avoir consacré 6 pages en novembre à l'état des transports parisiens, je me souviens que Castex nous disait « On a un réseau obsolète, il y a au moins 8 lignes sur 10 qui ne sont plus en état d'assurer un service public de qualité. » Donc beaucoup de choses vont reposer, 1, sur la réussite de la 14 et 2, sur les agents. Et n'oublions pas que nous sommes les premiers Jeux de l'histoire en pleine ville. Donc c'est là que les transports deviennent stratégiques.
C'est plus que 500 ou 600 boulons, hein, ce que vous dites. François Reinhardt,
moi, je voulais dire que
de façon
passer,
un peu générale.
De façon générale, j'ai vu passer un article très intéressant dans Le Monde qui faisait les autres Jeux à J-100. C'est-à-dire Londres, Sydney, etc. Et à chaque fois, c'était « ça marchera pas, on n'y arrivera pas », etc. Même ceux de Londres qui restent dans la mémoire collective, comme ceux qui ont été super bien organisés, qui ont été très bien très fonctionnés, etc. Il y avait des tas de « on n'y arrivera pas, c'est mal organisé ». Il y a des sociétés, la société de sécurité a fait faillite avant, enfin, des tas de catastrophes. Donc bon, voilà, le côté on n'y arrivera pas, c'est toujours comme ça. Moi, je pense que l'autre chose aussi, comme le disait justement Elsa, comme c'est organisé en ville, ben On peut se dire, il y a quelque chose quand même formidable. Le monde entier va admirer Paris encore plus que le monde entier n'admire Paris habituellement. C'est quand même une ville qui est très aimée. Et là, on va la voir partout. Et puis, au-delà de Paris, la Seine-Saint-Denis, moi, ça me fait très plaisir. Ça, c'est le département le plus pauvre de France, dans lequel il y aura des tas d'épreuves, etc. Et donc, le fait que le monde entier entende parler de la Seine-Saint-Denis autrement que par, il y a de la drogue, il y a de la misère, il y a de la machin, bah, déjà, c'est bien.
Moi, je pense qu'en fait, la France sera prête à accueillir les Jeux en temps et en heure. Moi, là-dessus, j'ai assez peu de doutes. Je pense que l'héritage va être très intéressant. D'abord, on parle de la baignabilité de la Seine, mais ça veut dire que la Seine et la Marne, en fait, on pourra nager dans la Seine et la Marne à partir de 2025. Hein, je parle du commun des mortels. Et puis, dans l'héritage, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il y a aussi les Jeux paralympiques et qui font notamment tous les bus de Paris seront à quai adaptés. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, moi, me paraissent très positives.
Alors, l'héritage, on en parlera. La partie sportive, le carton sportif français, Philippe Randé.
100% des médailles.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut raisonnablement espérer ? Le président dit top 5.
Oui, on avait dit 80 médailles à un moment donné. Maintenant, on parle de top 5. C'est plus facile.
C'est ça. Il paraît qu'il dit ça parce que c'est les titres, en fait.
Mais qu'est-ce que ça veut dire top 5 ?
Ça veut dire dans les 5 meilleurs pays en termes de médailles d'or. Puisque le classement est fait en termes de médailles d'or. On y a été une seule fois dans le top 5. C'était Atlanta en 1996.
Combien de médailles d'or ?
Une vingtaine. Et 43 médailles à Pékin en 2008. C'est le record de médailles. Il y en a eu 33 à Tokyo. Moi, je pense qu'on fera plus parce que à domicile, il y a ce qu'on appelle le home advantage, qui fait que traditionnellement, les pays qui organisent des Jeux Olympiques gagnent plus de médailles que 4 ans auparavant. Donc voilà, si on est dans les 3-5 pays, entre, on va dire, 50 et, 70 médailles, ça serait bien. Mais on a plein de sportifs qui vont gagner des médailles. On a plein de futurs stars dont on va beaucoup parler pendant les JO, c'est sûr.
Que le président redescendu, je sais pas comment dire, c'est l'ambition de 80 pour parler maintenant de top 5, ça signifie quelque chose, il s'est passé quelque chose pour vous ?
Non, ça signifie que...
Il s'est fait taper sur les doigts, on lui a dit c'est pas crédible.
Non, ça signifie que ça veut pas dire grand chose de donner un nombre de médailles, parce que ça reste quand même très aléatoire. Par contre, dire qu'on fera partie des 5 plus grandes nations au monde, aux Jeux Olympiques, je pense que c'est peut-être plus parlant pour le grand public. Et puis, je pense que 80 médailles, c'était trop.
Les grands noms vraiment attendus?
Léon Marchand, évidemment, que tout le monde connaît. Il risque d'avoir plusieurs médailles. En judo, évidemment, il y a Riner et Agbenienou, qui sont deux superstars, Canon à l'épée, Pauline Ferrand-Prévot en VTT, tous les sports collectifs, hein, évidemment, Wembanyama en basket que tout le monde connaît dans le monde, le hand, Dupont en rugby, enfin des médailles.
Ce qu'on ne connaît pas, je ne vais pas vous demander, vous n'êtes pas Madame Soleil ou Monsieur Soleil, mais...
Je pense que dans les nouveaux sports,
on sponsoriserait qui ?
Aller vers les nouveaux sports. Je pense que les nouveaux sports, ça va être une superbe découverte. L'escalade, le skate, le breaking, tous ces sports dont on parle peu et dont les billets se sont vendus le plus rapidement. Il y a un vrai engouement, notamment des jeunes, auprès de ces nouveaux sports, avec des gens qu'on connaît évidemment beaucoup moins que Teddy Riner.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On parle des Jeux à J-100 de Paris 2024, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Vous avez raison, Stéphane Vernet, de le souligner. Sur ces nouveaux sports dont parlait Philippe Randé, il y en a qui vous amuse, le breaking dance, Stéphane Vernet, par exemple.
Je ne suis pas un spécialiste de la question. il y a le skate aussi.
Vous trouvez ça anecdotique ou vous trouvez ça...
Non, le skate, moi, je trouve ça très bien parce que effectivement, il faut des vraies qualités sportives et artistiques et
sans l'expérience.
Je suis bluffée à chaque fois quand je regarde des skateurs. Non, vraiment. Pas l'expérience, juste regarder.
J'aime bien le fait qu'il y en ait qui viennent et qu'il y en ait qui s'en vont à chaque fois des sports. Et alors, j'ai cherché dans ce qui restait des autres Jeux Olympiques français de 1924, il reste une façade en hommage à la pelote basque dans Paris, dans le 16e arrondissement, parce que c'était un sport olympique que ça n'est plus.
Une seule fois ?
Alors, ça a été sport olympique à Barcelone, en sport de démonstration aussi, la pelote basque, je crois.
Ah oui. Et donc, il reste une façade qu'il faudra trouver, que les gens qui viennent à Paris peuvent essayer de trouver dans le 16e arrondissement.
Alors, si on parle de l'héritage, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà couvert des Jeux. Qui a couvert des Jeux par le passé ? Stéphane Vernet qui sourit.
Non, alors moi j'ai pas couvert les Jeux, mais je dois confesser que j'ai participé aux Jeux Olympiques du village famille vacances de Gap en 82. Mais j'ai pas eu de médaille parce que j'ai raté l'épreuve de la bille dans la bouche.
Vous faisiez les interviews à la fin.
Ouais, non, j'étais trop jeune. Mais...
Oui, en 2012 à Londres.
2012. Alors la question c'est est-ce que Londres est peut-être un bon exemple d'ailleurs, mais quand on parle d'héritage, alors la Seine et la Marne, ça pourrait faire partie de l'héritage. Amélie Oudéa-Castéra le disait. Tout le monde ricane, notamment parce que l'ONG Surfrider Foundation a dit qu'on n'y était pas encore à la baignabilité. Vous y croyez, vous ?
Bah, moi, je trouve qu'il y a toujours un scepticisme des Parisiens parce que le premier à l'avoir promis, c'était en 90, c'était Jacques Chirac. Et c'est pas encore fait. En même temps, si on y arrive, ça sera une vraie performance. Enfin, franchement, c'est et de fait, quand même, ils font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver.
Alors, il y a des
vrai ennemi, c'est la crue. Hein. C'est s'il pleut beaucoup.
Stéphane Vernet, qui a l'air d'avoir bossé le sujet.
Alors non, mais moi je suis sûr qu'ils vont y arriver. En fait, le truc c'est que pour les Jeux, c'est donc il y a 5 épreuves qui se disputeront entre le pont de le pont Alexandre III et le pont de l'Alma. Et après, l'idée c'est de rendre la Seine et la Marne baignables pour les Parisiens, les citoyens en 2025. C'est pas pour tout de suite. Et en fait, le plan qui a été mis en place a été assorti de gros moyens, c'est 1,2 milliard si je me souviens bien, dont 700 millions donnés par l'État. Et en fait, ils sont au plan de charge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'ONG de surfeurs fait Surfrider fait ses analyses, ça a pas de sens. On est en pleine période de crue et en fait les deux unités spéciales qui vont permettre d'enlever les bactéries qui posent problème dans la Seine, elles sont pas encore en service. Elles seront en service à partir du 1er juin. Donc c'est normal que l'eau.
Bassin de rétention aussi, il y a cet immense bassin de rétention à Auxerre.
Il y en a plusieurs et ils ont raccordé toutes les. Il y a 250 péniches qui sont en cours de raccordement au réseau, etc. On sait déjà qu'il y en aura qu'une. Au moment des épreuves qui sera pas raccordée, mais l'État va la faire déplacer, en fait. Moi, je suis sûr que ça va marcher. La seule inconnue, c'est qu'il faut pas qu'il y ait des gros orages comme l'année dernière, au mois de juillet. Là, ce qui est prévu, c'est un report des épreuves, si nécessaire, de 24 à 48 heures. Mais s'il y a une période de très fort orage qui dure plusieurs jours, alors là, il peut y avoir un problème. Mais à part ça.
Mais j'allais vous dire, l'été dernier, ça devait être même en août, je pense, des épreuves, est-ce que c'était Coupe du Monde, Championnat du Monde, ont été annulées.
À cause de ça.
Suite à un orage.
Bah oui.
Orage.
Et ça, pour le coup, peut-être qu'il faut accepter.
Plus une vague.
Oui, mais ça, c'est l'orage.
Pas juste l'orage.
Ils ont pas eu de bol.
Plus une vague d'évacuation d'eau usée.
D'égout qui était pété, en fait. Et
qui s'est ouverte et qui aurait pas dû.
Ça peut quand même arriver.
Oui, mais en tout cas, bien sûr, mais ça, c'est ce qu'on peut pas contrôler. Il y a l'orage. S'il y a l'orage, ça va gâcher la cérémonie d'ouverture aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve que le symbole est très beau parce que c'est un symbole qui parle à tout le monde. On s'est baigné dans la Seine, dans la Marne, jusque très tard, hein, jusque dans les années 1920. Si vous allez vous promener sur les bords de la Marne, les gens ne connaissent pas Joinville-le-Pont, etc., il reste des plongeoires et tout ça. On se baignait tout à fait naturellement là-dedans. Il y a plein de toiles impressionnistes avec des gens qui se baignent dans la Seine, dans la Marne. Et ça s'est arrêté avec l'idée que c'était, voilà, que ça ne pourrait jamais changer parce que là, il y avait de la pollution, les égouts, les machins. Et là, le fait qu'on arrive à rendre réversible ce mouvement, c'est formidable. Ça veut dire que j'espère que ça va donner envie à tous les maires de France de dire défendons nos rivières et les gens pour que les gens puissent se baigner dans les rivières.
C'est des énormes moyens et il faut pour le coup d'un budget.
Ce qu'on dit pas, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait ces travaux-là d'assainissement des eaux, etc. Ils datent pas du mois dernier en fait. Hein. Ça fait déjà des années qu'il y a des plans qui sont mis en place. On sait aujourd'hui que la qualité de l'eau fait qu'on est passé d'une dizaine d'espèces de poissons dans la Seine à 35, je crois. Donc, en fait, voilà, on est au bout d'un truc qui va fonctionner.
Et qui va dans le bon sens, encore une fois, qui fait plaisir. On est toujours dans un monde dans lequel tout ce qui est autour du climat, de l'environnement, etc., est anxiogène, parce qu'on a l'impression qu'on va toujours vers le pire. Là, on va un truc où on va vers le mieux. Il faut s'en réjouir, quand même.
Il y a des JO où ça a été tenté. Je parle pas du Brésil, où je sais que c'était catastrophique et que précisément les nageurs se sont baignés dans des conditions qui étaient pas acceptables.
Et là, il y a eu ça en Angleterre.
Est-ce qu'à Londres, puisque vous y étiez, mais c'est pas un piège, quelque chose a été tenté pour faire des épreuves en eau vive?
J'en ai pas le souvenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que les triathlètes, notamment, ont l'habitude de nager dans des eaux sales. Clairement.
Il y a pas longtemps, en Angleterre, il y a eu la célèbre épreuve de Oxford-Cambridge d'aviron. Il y a et après, ils se sont jetés dans l'eau pour fêter ça comme d'habitude. Et il y en a plein qui ont été malades. Hein, ouais.
Je peux juste vous rappeler que Arthur Jarmin, le fils d'Anne Hidalgo, a descendu la Seine de la source jusqu'à la mer et qu'il n'est pas mort. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas une oreille qui lui a poussé au milieu du front. Donc c'est que ça doit être possible quand même.
Je voudrais qu'on dise un mot des équipements. Quand la ministre dit transformer le village des athlètes, le village des médias en quartier, éco-quartier, etc. Est-ce que ça a été conçu pour que ça fonctionne, ça, Philippe Randé, de ce que vous en savez?
C'est fait pour ça. Il y a très peu de nouveaux équipements.
C'est souvent conçu pour, et puis c'est pas forcément toujours le cas.
En tout cas, c'est l'objectif, puisqu'on parle de l'héritage des Jeux depuis 5-6 ans, comme Londres, d'ailleurs. Ils avaient parlé des Legacy Games à Londres. Ils avaient aussi cet objectif d'héritage. Oui, ça a fonctionné. Il y a un quartier à Londres qui s'appelle Stratford, où a été construit le village olympique, où il y a une université qui est en train de se construire, où il y a des salles de spectacle, etc. Donc, ils ont créé, comme à Barcelone. Barcelone, c'est un très bel exemple de réussite. Barcelone, à l'époque, était une ville qui se mourait, grise, et puis les Jeux olympiques ont tout changé. Ils étaient de dos à la mer, ils ont construit ce nouveau village olympique face à la mer, et c'est une ville qui s'est totalement développée grâce aux Jeux olympiques. Alors, Paris n'a pas besoin des Jeux olympiques pour attirer plus de touristes, il y en a déjà beaucoup, mais en tout cas pour le 93, et mon voisin l'a dit, pour le 93 c'est très important, c'est notamment dans le village olympique et dans le village des médias qui seront deux nouveaux pôles transformés en logements et en nouveaux quartiers.
Et pour le coup,
je pense que le cauchemar dans la tête de tout le monde, c'est Athènes en fait. C'était Athènes, c'était quoi, 2004 Athènes, c'est
absolument.
Ça. Après, il y avait plein vous savez, les Grecs s'étaient surendettés pour faire des tas d'installations magnifiques, etc. Et après, elles sont restées. On appelle même ça les éléphants blancs. Vous saviez ça? C'était le mot. Vous connaissez ça, Philippe, ou pas?
Tout à fait. Oui. Nombreux équipements qui sont restés, qui ont pourri sur place. Et en fait, Rio a été un mauvais exemple aussi. Rio a été un mauvais exemple aussi.
Pour avoir eu la chance de couvrir ce Sotchi en hiver 2014, on se posait beaucoup de questions. Alors, il faudrait y retourner, j'avoue très humblement de pas y être retourné, mais il y avait des centaines, des milliers de logements, de chambres d'hôtel, etc., dont tout le monde pressentait qu'elles allaient rester vides ensuite.
Et donc je pense que maintenant, les Jeux post tout ça sont pensés pour éviter cette question-là, quand même.
Il faut forcément un héritage, parce que l'organisation des Jeux coûte tellement cher, réclame tellement de moyens, qu'il faut pouvoir dire quand même à la population qu'il y a un héritage. Et effectivement, pour avoir été à Barcelone la semaine dernière, il y a tout un quartier en bord de mer qui était le village olympique et qui a été transformé en logement. Et c'est une vraie réussite. Donc on espère, mais nous, les développements, l'héritage, c'est plutôt mobilier, sera plutôt en Seine-Saint-Denis, parce que à Paris, vous construisez plus rien.
C'est un peu particulier quand même de se pencher sur l'héritage avant même de laisser passer, enfin que les Jeux aient eu lieu.
C'est étonnant le terme héritage avant de débuter, mais moi je pense que le plus grand héritage, ça sera le sport et les gens qui vont faire du sport. C'est ce qu'on appelle la grande cause nationale. C'est 30 minutes de sport par jour.
Les citoyens, vous voulez dire, alors pour
les citoyens, tout à fait, monsieur et madame tout le monde. Et si on arrive à faire du sport aux Français, on n'est pas réputé pour, ça sera déjà une belle réussite et c'est plus important qu'une dizaine d'appartements dans un village des médias, je pense.
Il y a ça et aussi le fait de pouvoir aussi aider à faire changer le regard sur le handicap dans ce pays. En fait, à Londres, ça avait marché et donc là, c'est pour la première fois qu'on a les Jeux olympiques d'été et les Jeux paralympiques qui sont organisés dans un délai aussi court, aussi rapproché. Et je pense que ce sera le cas, que les Jeux paralympiques attireront énormément de monde, peut-être presque autant, voire plus que de spectateurs pour les Jeux olympiques.
On n'en est pas là à 30% de billets vendus seulement pour les Jeux paralympiques pour l'instant. Il y a encore du travail, mais ça va décoller.
Merci beaucoup Philippe Randé. Énorme dispositif sur France Info et sur Radio France, mais sur France Info notamment, avec une armée, si je puis dire, de consultants. Jean Galfione, Jean-François Lamour, Thierry Rey, Jacques Monclar pour le basket, Roxana Maraciné à nous, énormément de monde. Et vous aux commandes avec Nathalie Yanetta. On suivra ça avec bonheur. Merci
avec
beaucoup
plaisir.
D'être venu nous éclairer.